Bonjour, nous sommes le dimanche 21 avril 2024 et un petit quiz. J'ai déjà consacré combien de vidéos à Donald Trump? Vous pouvez trouver ça, c'est une playlist sur ma chaîne YouTube, j'en ai fait 104. Ceci, c'est le numéro 105. Je suis un peu fatigué. Récemment, voilà, cette année-ci, 2024, j'en ai encore fait que trois où j'ai parlé de Trump. J'ai consacré à l'affaire dont je vais parler aujourd'hui, voilà, l'affaire qui le mène devant un tribunal à New York en ce moment. J'ai déjà consacré plusieurs heures, mais la dernière fois que j'ai parlé de ça, à proprement parler, c'est en 2019, donc ça fait il y a 5 ans, et donc on va en reparler. Alors, il se fait que maintenant, M. Trump est devant le tribunal pour quelque chose dont on a parlé en 2016. Alors, il est inculpé pour des faits qui se sont déroulés en 2016. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi la justice est lente? Nous sommes au courant, mais enfin, à ce point. Eh bien, la raison principale pour laquelle on en parle maintenant, c'est qu'entre 2016 et 2020, M. Trump a été président de la République fédérale des États-Unis. Et pendant ce temps-là, il a tout fait pour. Il a exercé une influence par le biais de son ministre de la Justice, M. William Barr, pour empêcher que cette affaire aboutisse devant les tribunaux. Il y a eu. Voilà, on a saisi des documents. Monsieur Berman, qui était procureur, a publié un livre en 2022 où il explique en particulier comment on a essayé de. Voilà, comment on a confisqué des dossiers, comment on a modifié les rapports qui ont été faits, comment au lieu de parler de Monsieur Trump à l'époque, dans un document officiel, on l'a appelé d'abord l'individu numéro 1. Avant de le désigner de manière plus précise comme une personne impliquée dans la campagne électorale de M. Trump. Oui, enfin bon, quand on est le candidat, effectivement, on est impliqué dans la campagne électorale, mais enfin, c'est quand même pour cacher quelque chose qu'on avait, voilà, qu'on l'a appelé comme ça dans un document officiel. Son avocat à l'époque, la personne qui a fait les paiements en question, voilà, des questions à des. À une vedette du film porno, et de manière indirecte, parce que ça n'a pas été payé ni par Trump, ni par son avocat, à une personne, une autre personne. Alors, la première personne, voilà, s'appelle Stormy Daniels, la seconde s'appelle Karen McDougal. Voilà, je reviendrai sur leur nom, ce qui s'est passé. Depuis, bon, à l'époque et depuis. Alors, il se fait que depuis une semaine, Monsieur Trump est devant un tribunal. Ça n'a pas encore démarré véritablement, l'affaire. On a nommé un jury pendant la semaine qui s'est écoulée. On a nommé un jury, on a essayé de réunir un ensemble de personnes, membres du jury. De l'affaire qui débutera officiellement demain, lundi. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour une raison qui est dont je vais vous parler. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé avant, ben, écoutez, ou bien regardez toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet, vous faites Stormy Daniels, ou bien vous regardez sur mon blog, parce qu'il y a la plupart du temps, il y a eu retranscription de ce que je racontais, et il y a des pages et des pages. La semaine dernière, on a simplement essayé, voilà, de. Il y avait 500 personnes qui ont été contactées comme étant d'éventuels témoins. Et on a eu du mal à réunir la liste, voilà, de ceux dont on avait besoin pour des raisons diverses. Et comme il y a beaucoup de choses à dire, je vais me contenter aujourd'hui de parler de ce qui s'est passé. L'affaire est une affaire au niveau fédéral parce qu'il y a eu interférence avec la campagne électorale présidentielle de 2016. Des versements d'argent ont eu lieu au nom de M. Trump par l'intermédiaire de son avocat Michael Cohen et d'autres paiements ont été faits directement par une publication, un tabloïd, un représentant de la presse de gouttière, comme on dit en français, Gutter Press, qui s'appelle le National Enquirer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 130 000 dollars ont été versés à Madame Stormy Daniels et je crois que c'est une somme de 250 000 qui a été payée à Madame Karen McDougall. L'affaire de Madame Stormy Daniels, ce serait selon elle qu'elle a été abordée par Monsieur Trump, qu'ils ont eu une relation rapide en échange de la promesse qu'il ferait intervenir Madame Daniels dans une émission de télévision, de télé-réalité. Madame McDougall, c'est une autre affaire, c'est qu'elle aurait eu une liaison de plusieurs mois avec Monsieur Trump. L'argent qui a été versé à Madame Daniels, c'est pour qu'elle ne parle pas de cette affaire, ce qu'elle a fait quand même dans un livre. Madame McDougall, on a essayé de la faire taire de manière un peu plus indirecte en lui promettant qu'elle allait pouvoir publier des articles dans le National Enquirer, l'organe de presse en question. Et c'était un moyen de la faire taire. On lui a payé l'argent et puis on lui a jamais demandé de faire les articles. Alors, pourquoi est-ce que tout ça se retrouve devant un tribunal aujourd'hui? Eh bien, parce qu'on a déguisé les paiements. On a voulu cacher qu'il s'agissait d'une interférence dans la campagne électorale qui conduisait aux élections de novembre de 2016. Il y a une falsification. On a d'abord c'est Monsieur Michael Cohen, avocat de Monsieur Trump, qui a commencé par faire les versements en tirant l'argent sur une ligne de crédit qu'il avait pu obtenir en hypothéquant, non pas sa maison, mais en hypothéquant un prêt immobilier qu'il avait déjà obtenu. C'est le genre de choses qu'on peut faire aux États-Unis. Et à une époque où je travaillais chez Wells Fargo, la grande banque américaine, je travaillais au siège là, à San Francisco, je m'occupais essentiellement effectivement du pricing, voilà, d'établir les taux d'intérêt pour les second loans de ce type-là, voilà, des seconds prêts ou ce qu'on hypothèque, c'est pas la maison directement, mais c'est déjà une hypothèque sur la maison. C'est pas tout à fait une hypothèque, voilà. Bon, j'ai parlé de ça à l'occasion parce que aux États-Unis, tant que vous n'avez pas rembourser entièrement la banque pour le prêt immobilier, c'est elle qui est détentrice du titre, c'est elle qui est propriétaire. C'est le jour où vous déposez le dernier centime, à ce moment-là, vous devenez propriétaire. Ce n'est pas du tout comme ici. Et donc, M. Michael Cohen avait mis en gage un prêt hypothécaire qu'il avait déjà, un prêt sur sa maison qu'il avait déjà obtenu, et il avait payé 130 000 dollars à Madame Stormy Daniels pour qu'elle se taise. Trump lui avait remboursé, comme étant des frais d'avocat. Donc il y a des chèques signés de Monsieur Trump, mais il s'agissait véritablement, effectivement, d'une affaire où on a essayé d'empêcher que ces choses apparaissent en surface, d'autant plus que Monsieur Trump était à l'époque, il était sur la défensive parce qu'on avait, rendu public un enregistrement d'une conversation qu'il avait eue avec un journaliste d'une publication qui s'appelle Access Hollywood, où il expliquait que quand on était quelqu'un comme lui, on pouvait faire ce qu'on voulait aux dames, quand on est une star, elles vont se taire, elles vont rien dire, et qu'en particulier, c'est dit texto, on peut les attraper par la qu'on vous dira jamais rien parce que depuis, comme il expliquera plus tard à la presse, écoutez, ça fait des millions d'années que ça se passe comme ça, pourquoi ne pas le dire? Ça avait quand même fait un petit scandale durant la campagne électorale quand tout le monde avait pu entendre ça, et du coup il était devenu très sensible, très sensibilisé à d'autres possibilités du même genre. Alors voilà, donc il se retrouve devant un tribunal à New York pour ça. Ça le gêne beaucoup, ça l'ennuie beaucoup parce que d'une part, il ne pourra pas se rendre à la Cour suprême où la semaine prochaine, on va discuter du fait que est-ce que du fait qu'il a été président des États-Unis, on ne pourra jamais le poursuivre sur rien, ce qui est la position que ses avocats défendent. Donc il ne pourra pas être là, il ne pourra pas être voilà, une remise de diplôme pour un de ses fils. Alors il est très très triste, mais on lui a dit, non monsieur, vous êtes inculpé, ben, vous venez au tribunal le temps qu'il faut. Alors il s'énerve, il s'est endormi déjà une fois. On s'est demandé s'il faisait semblant ou non, on ne sait pas trop avec le personnage. Mais surtout, il menace les membres du jury. Il les regarde quand ils sont nommés, quand ils passent à travers le processus où on les désigne, de désignation. On les désigne véritablement comme étant les membres du jury qui présidera la semaine prochaine et les semaines suivantes. Il répète voilà, il répète dans des tweets sur son site, voilà, sur sa chaîne à lui. Il répète des choses qu'on dit autour de lui, que les démocrates, voilà, plutôt les marxistes et les communistes sont parvenus à faire nommer comme membres du jury des sous-marins à eux. C'est-à-dire qu'il désigne déjà à la vindicte publique les membres du jury en disant ils vont voter, ils vont m'inculper, ils vont dire que je suis véritablement coupable, mais c'est parce que c'est des gens qui sont vendus aux marxistes et aux communistes. Alors il dit oui, mais c'est pas moi qui ai dit ça. Bon, c'est un type autour de lui, voilà, c'est quelqu'un qui va le représenter sur la chaîne Fox News. Et voilà, il le fait de manière systématique. Il menace pas seulement les membres du jury. Il dit déjà, si je suis élu, la première chose que je fais, c'est de mettre en prison un certain nombre de mes adversaires. Alors les gens qui Les membres du jury, s'ils décident qu'ils sont coupables, alors là, ils sont sur la liste automatiquement. Et le fait est que ces gens sont extrêmement mal protégés. Voilà, ils viennent. On a commencé par dire où ils travaillaient. Après, on a arrêté en disant que oui, ce n'est pas une bonne idée parce qu'il y a des partisans de Trump qui risquent de leur faire un mauvais coup, comme on avait vu d'ailleurs, hein, pendant les campagnes électorales. Et en particulier, il y a deux femmes qui faisaient partie d'un collège, voilà, qui un collège électoral en Géorgie, qui ont été menacées, qui avaient une foule de partisans de Trump hurlant devant leur porte parce que, soi-disant, enfin prétendument, selon Trump, elles avaient fait venir dans des caisses des faux bulletins, etc. Donc, il est vrai que Trump peut mobiliser des gens contre lui. Il fait exactement comme un type de la mafia. Il se compare, voilà, ça passe un peu en boucle. Il se compare favorablement à Al Capone, le fameux gangster, en disant, ben, à cette époque-là, voilà, les gens qui devaient se défendre, ils prenaient pas des gants, etc. Oui, mais il ne se rend pas compte qu'Al Capone a fini sa vie en prison, mais il se dit simplement, je vais être renommé président et je vais me pardonner moi-même pour les trucs au niveau fédéral, pour ce qui se passera au niveau des États. Je vais simplement me débarrasser des gens qui ont pris des décisions contre moi. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup davantage, mais je vais faire intervenir ici, parce que le procès en fait n'a pas encore démarré, il démarrera demain. Ce qui a fait l'actualité, c'est d'une part le processus long de nomination, de désignation du jury. Un certain nombre de gens se sont tout de suite désistés parce qu'on leur a demandé est-ce que pourrait être impartial. Ils ont levé la main, une cinquantaine, et on leur a dit non. Il y a deux personnes qui avaient été nommées comme jury et qui sont revenues le lendemain en pleurs en disant non, la pression est trop forte, on a dû les retirer. Mais ce qu'il y a au cœur de ça, véritablement, c'est cette affaire qu'on demande aux gens qui vont être désignés comme membres du jury, est-ce que vous pourrez être impartial? Bon. Alors là, le citoyen, Paul Jorion, il n'est pas un citoyen américain, même si j'habitais longuement dans ce pays, et qu'on a un jour, j'ai raconté ça, un jour on m'a demandé de faire la preuve que je n'étais pas un citoyen américain parce que tout allait contre moi. Et en particulier, c'est parce que j'étais convoqué pour faire partie d'un jury. Et j'ai dit non, je suis pas, j'attire votre attention sur le fait que je ne suis pas un citoyen américain. On m'a dit prouvez-le, prouvez-le. J'arrive à le prouver. Et au cœur du processus, il faut dire est-ce que vous serez un juge impartial? Si les gens disent non, je ne serai pas un juge impartial, et c'est ce qu'a dit une des dames qui a pleuré alors qu'elle avait déjà été désignée. Elle est venue dire oui, mais je ne serai pas un juge impartial parce que je ne sais plus ce que c'était, parce qu'un jour, un ami de ma copine, je ne sais quoi, quoi. Enfin, bon, il y avait une raison. Non, c'était peut-être un petit. Il y avait un membre de sa famille qui avait fait quelque chose qui pourrait être considéré comme n'étant pas en faveur de monsieur Trump. Mais on demande aux gens est-ce que vous serez un témoin impartial? Et là, c'est Paul Jorion, non pas le blogueur. C'est Paul Jorion, psychanalyste, qui a quand même quelque chose à dire à ce sujet-là. Alors, première chose, être impartial. Si on regarde la définition, je crois qu'on a déjà pas mal de problèmes. Je crois qu'il y a déjà des gros traités qui ont dû être consacrés à la question d'être impartial ou non. Bon. Ce qu'on veut dire sans doute, c'est de se placer au-dessus de la mêlée, prendre le point de vue de Cyrus, etc. Je parle même pas de psychanalyse, mais parlons de sociologie. Rien qu'en prenant la notion de sociologie, qu'est-ce que c'est l'impartialité de quelqu'un? Et puis, vu les intérêts, comme on dit, les intérêts, voilà, pas l'argent, mais vu le fait que tout le monde est intéressé d'une manière ou d'une autre en étant un individu, voilà, un membre du genre humain, à ce qui se passe dans le genre humain, rien de ce qui est humain ne m'est étranger, a dit le philosophe, mais chacun peut dire ça, personnellement aussi. Mais alors le psychanalyste, quelqu'un qui dit « je peux être impartial », la question de psychanalyste, c'est qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il ou elle en sait? Voilà, c'est ça ma remarque. Tout le système de justice est fondé sur cette notion de responsabilité. J'en ai parlé à propos du livre de Musil, voilà, une chronique pour le périodique Quinzaine, L'homme sans qualité. Il y a un fameux procès, le procès de Moosbrugger. Et à propos de ce procès de Moosbrugger, je me suis intéressé à essayer de décortiquer ce qu'on appelle la responsabilité. Il y a l'imputabilité. Est-ce que vous étiez là d'une manière ou d'une autre? Bon. Est-ce que vous considérez que. Voilà. Est-ce que vous pouvez raconter quelque chose en votre nom propre? Sur ce qui s'est passé, c'est une deuxième dimension. Et la troisième, c'est si vous avez joué un rôle là-dedans, est-ce que vous identifiez entièrement, est-ce que vous adhérez entièrement au fait que ce soit vous qui ait été la personne responsable, la personne qui a été la cause des événements. Donc il y a beaucoup d'éléments en réalité. Je ne sais pas si tout ça a été traité dans le même, je dirais, dans la même perspective que moi, rapportant ce que dit Robert Musil dans son roman publié dans les années 20. Il y a beaucoup d'éléments. Notre système de justice repose là-dessus. Je ne sais pas si en Europe on demande aux gens, pouvez-vous être impartial? En tout cas aux États-Unis, oui, ça correspond bien, je dirais, à une représentation tout à fait idéalisée de ce que c'est que la responsabilité personnelle et la possibilité pour quelqu'un de s'identifier entièrement à ce qui se passe. La part de processus inconscient, qu'est-ce qu'on peut dire sur un sujet humain par rapport à ce qu'il dit? Et la question se pose en de tout nouveaux termes depuis à peu près un an. Quand on commence à voir des machines qui vous disent, oui, moi, il me semble que nous, voulant dire les êtres humains, oui, je vois bien qu'il y a une distinction entre nous, grand système de langage, et vous, les êtres humains, mais d'une certaine manière, quand on parle de responsabilité, est-ce que la notion est véritablement différente? Là, je cite, voilà, je cite les machines dont on nous dit que c'est des perroquets qui savent pas de quoi qu'ils disent. C'est des gens qui, en fait, non, les gens qui disent ça, c'est des gens qui n'ont vraiment jamais regardé. Ou alors qui, pour une raison, je dirais, stratégique, par exemple parce qu'ils sont dirigeants d'une grande entreprise qui s'occupe de produire des trucs, voilà, des machines de ce type-là, ne peuvent pas, n'ont pas la possibilité même, je dirais, de dire honnêtement ce qu'ils pensent. Parce que s'ils disaient honnêtement ce qu'ils pensent, on irait voir les autres dirigeants des autres entreprises qui font la même chose et on leur dirait, mais écoutez, pourquoi est-ce que vous dites le contraire de ce que dit ce monsieur? Et les gens seraient très embarrassés et se diraient, il aurait mieux fait de fermer sa bouche. Voilà. Alors, moi, je vais continuer à suivre cette affaire, ne serait-ce que parce que vous, vous êtes impatient, impatienté, que je ne disais encore rien cette fois-ci. Mais vous avez dit plein de trucs sur Trump, et voilà une semaine qu'on parle de lui et voilà devant un tribunal. Oui, mais enfin bon, il s'était encore rien passé, à part ce que j'ai pu dire aujourd'hui, qui est la sélection et la désignation des témoins. Alors oui, bon, c'est promis, je vous parlerai de ce qui se passera par la suite. Je vous tiens au courant. À très bientôt, chers amis et chères amies.